Eh bien, bonsoir à tous.
Nous allons donc lire un texte sur lequel se basera le message de ce soir. Ce texte se situe au livre du prophète Ésaïe, au chapitre 59. Nous lisons à partir du verset 8. Et je vous laisse en passant apprécier l'actualité de ces textes. Les hommes, dit le prophète, les hommes ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Ça, c'est pour ces messieurs et ces jeunes gens ici présents. Nous grondons tous comme des ours et nous gémissons tous comme des colombes. Ça, c'est pour ces dames et ces demoiselles ici présents. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut et il est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge, et la vérité s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. À ces textes, j'en ajouterai un autre que je citerai de mémoire et qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et au verset 27. C'est Jésus qui parle. Nous adressant le message suivant. Oh, nous voudrions tant que toute la vallée ici puisse entendre ce message. Jésus nous dit ce soir, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne s'alarme pas, ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Eh bien, que Dieu bénisse le message de sa parole. Ce soir donc, nous allons nous attaquer à un gros morceau. J'en ai conscience et je ne dis pas que une réunion suffira pour régler la question. La question de la paix, la question de l'angoisse. Mais nous tâcherons, dans cette heure, d'en dire assez pour que le plus grand nombre ait l'occasion de saisir cette paix. Cette paix qui ne se trouve qu'en Christ. Nous allons ce soir donc nous en prendre à ce que nous pourrions appeler notre ennemi public numéro un. C'est quoi ? Eh bien, nos psychologues, nos sociologues, tous ces savants auxquels nous avons fait allusion hier soir, nous affirment que notre ennemi public numéro un, que ce soit en Suisse, en France ou ailleurs, est aujourd'hui l'angoisse. L'homme souffre d'angoisse, où qu'il vive sur la surface de la terre, quelle que soit la couleur de sa peau, sa condition sociale. Et l'angoisse, c'est un phénomène qui se mondialise de plus en plus, qui se généralise de plus en plus, et qui donne le cauchemar à nos psychologues, à nos psychiatres, à nos sociologues, à tous nos savants, d'une manière générale. L'angoisse est véritablement le fléau du siècle. Jugez-en par ces chiffres que j'ai obtenus d'un organisme sérieux, puis que suis-je. Tout à votre honneur. Cet organisme qui se situe à Genève et qu'il est convenu d'appeler l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Eh bien, cet organisme a affirmé il y a peu de temps qu'à l'heure qu'il est, 7 personnes sur 10 souffrent d'angoisse. C'est énorme. Qu'une personne sur 2 connaît au moins une fois dans sa vie des troubles nerveux. Notre terre porte donc aujourd'hui une race d'angoissés, une race de nerveux. Et une autre statistique concernant la France, elle ne vous touche donc pas directement, mais enfin, nous sommes vos voisins. Et peut-être en est-il de même ici pour la Suisse. Une statistique affirme qu'un Français sur 3 ne dort pas bien. Alors nous pourrions poser la question suivante. Dort-on bien dans la vallée? Eh bien, je puis ici rendre le témoignage qu'on peut dormir tout à fait convenablement dans votre belle vallée. Mais vous comprenez que si ce Français sur 3 ne dort pas bien, si ce Suisse sur 3 ne dort pas bien, c'est tout simplement qu'il est chargé, angoissé. Nous avons en France comme en Suisse de quoi bien dormir. Nous avons ces matelas, dites donc. Hein ? Nous en avons en France de ces matelas que vous pourriez venir essayer. Et dont vous entendez certainement la publicité. Et si vous regardez aux télévisions, aux chaînes de télévision françaises, nous avons de ces matelas extraordinaires. Mais voilà, il ne suffit pas d'avoir un bon matelas pour passer une bonne nuit. Et si l'argent, par exemple, peut faire que nous nous procurions un bon matelas, l'argent, lui, ne nous donne pas le sommeil. Parce que le sommeil ne s'achète pas. Hein. Et nos savants nous disent même que plus on a d'argent, moins on dort. Surtout aujourd'hui, en tout cas en France, avec notre franc lourd qui devient de plus en plus léger. Oui, nous connaissons donc un véritable fléau, celui de l'angoisse, notre ennemi public numéro un. Et certainement que plusieurs ici savent de quoi nous parlons quand nous parlons de ne pas dormir, quand nous parlons d'être agités, chargés, tourmentés au niveau du cœur et de la conscience. Bien plus que la tuberculose en constante régression. Bien plus même que le cancer. Ça pourrait t'étonner, c'est pourtant vrai. L'angoisse est le fléau du siècle. 7 personnes sur 10 en souffrent. Et lequel d'entre nous n'a pas un jour ou l'autre éprouvé ce sentiment d'effroi, de peur intérieure, sans cause apparente? Cette peur qui est tout autre chose que l'inquiétude superficielle et qui peut aller jusqu'à provoquer des spasmes respiratoires, des palpitations, cette peur qui peut serrer au ventre, cette peur qui peut nous étrangler au cœur. Et si j'emploie un tel vocabulaire, c'est parce qu'on l'a employé avec moi suite à mes émissions à la radio ou à des conférences de ce genre. L'angoisse. Beaucoup tentent de la noyer dans l'alcool, dans la drogue, ou bien encore dans une vie exagérément active, pour oublier. Mais hélas, le rhumatisme revient quand l'ivresse est passée. Et quelle triste vie, quelle triste existence que celle qui consiste à vouloir oublier ce qui vient d'être vécu. Questionnez donc un alcoolique sur sa passion. Il vous dira « je bois pour oublier ». Questionnez un drogué sur sa passion, il vous fera une même réponse. Et questionnez ces foules qui cherchent l'évasion à tout prix, et souvent aussi pour oublier. Mais quelle triste vie que celle qui consiste à vouloir oublier ce qui vient d'être vécu. C'est là la preuve manifeste que nous ne connaissons pas vraiment le succès, mais bien l'échec dans nos existences. Nous voulons oublier ce que nous avons vécu. Tenez, à propos d'oublier, j'ai une petite histoire à vous passer pour vous détendre. Vous avez eu la gentillesse de nous honorer de votre présence en pleine semaine, alors il est bon que je vous détende un peu. J'étais à Bruxelles il y a peu de temps. Et là, en pleine prédication pour détendre toujours, j'ai raconté à nos amis belges une histoire française. Pas même une histoire suisse, voyez-vous. Une histoire française. Pourquoi cela ? Parce qu'en France, on raconte des histoires belges. Lesquelles, pour la plupart d'entre elles, tournent autour de frites. Et il est vrai que les Belges font de bonnes frites. Je les ai goûtées, je vais couramment en Belgique. Et alors, après la prédication, après, disons, la réunion elle-même, à la sortie, un Belge est venu vers moi pour me dire « Mais écoutez, Alain Choiquier, j'aimerais vous raconter une histoire française. » Puisqu'en France, vous racontez des histoires belges, moi, je vais vous en raconter une, mais une française, et il paraît qu'elle est vraie. Un Français est un jour entré dans un bistrot de Bruxelles. Il est vrai qu'en France, nous avons la réputation de boire beaucoup. Pas du thé, hein ? Et alors, ce Français est entré dans un bistrot de Bruxelles, et a commandé un premier whisky, suivi d'un second whisky, d'un troisième whisky, d'un quatrième, d'un cinquième, etc. Pour descendre littéralement toute la bouteille. Et une fois la bouteille descendue derrière la cravate, ce Français a quitté l'établissement, le bar, comme ça, subitement, château branlant, bien sûr, vacillant de tout son corps, quand le garçon de café lui courut après pour lui dire « Mais écoutez, monsieur, désolé, vous avez bu, bu encore, vous avez fini la bouteille de whisky et vous êtes parti sans payer. Vous avez oublié de payer. » Ah, de dire le Français, j'ai oublié de payer, mais je ne vous ai pas dit que je bois pour oublier. C'était bien envoyé, hein ? Alors évidemment, quand on m'a raconté cette histoire, j'ai été surpris sur le moment, mais j'ai quand même dit à ce Belge, ils sont quand même fins ces Français, hein. J'ai essayé de me rattraper que vaille. Mais enfin, on tente d'oublier, de mille et une façons. Un éminent psychologue de l'heure, le docteur Pierre Dacot, a dit ce qui suit, tout homme intelligent est angoissé. Il ne peut pas faire autrement que de l'être. Alors nous pourrions nous poser la question de savoir si nous sommes ici sur la terre pour vivre angoissé. Et savez-vous qu'on est angoissé même quand on est psychologue ? Il y a peut-être ici dans l'auditoire un psychologue. Alors qu'il ne pense pas du tout que j'en veuille à la psychologie, je pense que dans certains domaines, elle nous a appris bien des choses et elle peut aider. Mais en Suisse, il y a peu de temps, lors d'une campagne d'évangélisation du genre de celle-ci, au terme d'une conférence, un homme est venu vers moi. Il m'a dit « Alain Choiquier, pourrais-je vous rencontrer quelques instants ?» Mais bien volontiers. nous nous étions mis à l'écart. Et là, cet homme de me dire, écoutez, j'ai cherché à vous rencontrer parce que je suis agité. Je suis chargé. Je suis angoissé. Vous avez parlé ce soir d'une paix qui peut se trouver, se saisir en Christ. Et si vous avez dit vrai, eh bien, je veux bien cette paix en Christ. Je la veux. Et puis d'enchaîner, immédiatement après, je dois vous préciser, Alain Choiquet, que je suis psychologue. Je vous demanderai de taire mon nom, mais je suis psychologue. Alors je lui ai dit, mais écoutez docteur, que dites-vous à vos patients qui viennent vous consulter couramment, et qui viennent vous rencontrer parce que chargés, angoissés, tourmentés, mais que leur dites-vous? Et là, ce psychologue de m'avouer droit en face, Alain Choiquet, je n'ose pas dire à mes patients que je connais les mêmes mots qu'eux, que je connais les mêmes problèmes qu'eux, les mêmes difficultés qu'eux, mais vous comprenez, je ne peux pas leur dire. Et Alain Choiquet, si je vous disais encore, et à l'entendre, il me semble que j'ai dû perdre mes derniers cheveux. Je vous assure, je n'en revenais pas. Je n'en croyais pas mes oreilles. Alors je ne dis pas que tous les psychologues opèrent de cette manière-là, mais ce psychologue de me dire encore, écoutez, si je vous disais que je profite souvent de la présence de mes patients dans mon cabinet de consultation pour me décharger, moi, psychologue, de mes propres problèmes sur mes malades. Vous savez, quand il m'a dit ça, j'ai failli lui dire, mais écoutez, docteur, vous êtes malade. Oui, vous êtes malade. Je n'ai pas osé. Hein. Et ce psychologue, de me préciser encore ce qui suit. Il faut que vous sachiez, Alain Choiquet, qu'entre confrères de même profession, nous avons besoin de nous rencontrer régulièrement pour nous analyser et nous psychanalyser les uns les autres. Alors nous avons prié, je lui ai dit, docteur, est-ce que vous croyez que le péché existe? Il m'a dit, je pense qu'il existe. Est-ce que vous vous croyez pécheur devant Dieu? Est-ce que vous vous savez pécheur devant Dieu? Il m'a dit oui. Et croyez-vous que Christ puisse réellement vous venir en aide au niveau de vos angoisses, de cette conscience chargée et agitée qui est en vous? Il m'a dit oui, nous avons passé en revue quelques textes et nous avons prié ensemble. Il a prié et ce psychologue a demandé au Christ la paix du cœur par le pardon de ses péchés. Nous nous sommes séparés après avoir pris rendez-vous pour le lendemain. Dans la journée, nous nous sommes revus. Nous avons prié ensemble. Ce psychologue avait trouvé la paix du cœur. Et au moment de nous séparer, il m'a dit ce qui suit, Alain Choiquet. Je vous remercie de la part du Seigneur. Mais je puis vous dire que je sais à présent comment je pourrais venir en aide à mes patients. Il m'a fait du bien en me disant cela. On peut être angoissé, même quand on est psychologue. Et j'insiste sur cela parce qu'aujourd'hui, il semble qu'on nous présente la psychologie, la psychothérapie comme vraiment la panacée, hein, la solution. Bien sûr qu'elle peut aider. Et puis nous ne traitons pas ici d'angoisses qui peuvent résulter de troubles physiques, de troubles organiques et qui relèvent de la médecine scientifique. Nous traitons ce soir de ces angoisses qui ont leurs racines ailleurs que dans notre corps, qui plongent leurs racines profondément dans nos âmes. Et on peut être aussi angoissé même quand on est astrologue. Vous en avez en Suisse, des astrologues certainement. Nous en avons une en France, de réputation nationale et même internationale. Madame Soleil. Vous l'entendez depuis ici? Vous l'entendez? J'espère que non, hein. J'espère que le Jura fait réellement barrage à cette voix qui tente de sécuriser, mais qui n'apporte pas vraiment la sécurité. Et quand je suis à l'étranger, je parle de Madame Soleil, comme cela en passant, comme d'une astrologue très connue en France, qui a un succès formidable, mais quand je parle de cette Madame Soleil, je dis couramment qu'elle est dans la Lune. Elle me semble tout à fait dans la Lune, dans ses astres. En tout cas, pas les pieds sur Terre, hein. Eh bien, imaginez qu'il y a peu de temps, me trouvant à Montréal pour une série de conférences de ce genre, au terme de la dernière conférence où beaucoup de monde avait assisté, un couple s'était avancé par l'allée centrale, entre tous ceux et celles qui étaient venus devant. Le monde était énorme. Alors, une fois devant tous ceux qui en avaient besoin, j'étais descendu vers eux pour leur serrer la main. Et ce couple qui s'était avancé de manière ostensible, en se tenant par la main, est venu vers moi pour me dire « Est-ce que nous pourrions vous voir quelques moments ?» Nous nous sommes mis à l'écart. Et là, cette dame m'a dit « Voyez-vous, je vais vous demander de regarder un moment autour de vous. Regardez donc autour de vous. » Alors nous nous étions rencontrés dans un coin de l'immense auditorium, de l'immense salle. J'ai regardé vers l'auditoire et en effet, tous les regards semblaient se fixer sur ce couple. Alors j'ai dit à ce couple, il semble qu'on vous connaisse. Bien sûr qu'on nous connaît. Et surtout cette dame de préciser, surtout moi. Parce que je tiens une émission à la télévision canadienne, une émission hebdomadaire. Ah bon ? Et quelle sorte d'émission ? Eh bien, M. Choiquier, une émission d'astrologie. Mais j'ai sursauté. Vous êtes astrologue ? Je suis astrologue. Et vous vous êtes avancé à l'appel du Christ ? Oui, M. Choiquier, parce que vous avez parlé de paix. Et je n'ai pas la paix du cœur. Mais vous êtes astrologue, madame. Eh oui, je le suis. Mais alors, que dites-vous ? Je lui ai posé à peu près les mêmes questions qu'à ce psychologue suisse. Mais alors, que dites-vous à tous ceux qui vous appellent chaque semaine lors de votre émission à la télévision ? Et là, à peu près la même réponse que le psychologue. Bien écoutez, monsieur Choiquier, je n'ose pas dire à ceux qui m'appellent sur le petit écran que je connais aussi les mêmes mots qu'eux, que je suis tourmenté, agité, angoissé. Voyez-vous, M. Choiquier, c'est mon gagne-pain. Mais est-ce que vous croyez vraiment, madame, dans vos astres ? Puisqu'ils vous laissent dans votre état, vous êtes agité, vous passez des nuits d'insomnie. Vous n'arrivez pas à vous guérir vous-même par l'exercice de cet art occulte qu'est l'astrologie. Et cette dame de me dire non, Alain Choiquier, écoutez, les astres représentent une affaire, une grande affaire qui ne peut pas se partager comme ça en quelques instants. Mais je suis néanmoins astrologue et j'ai besoin de cette paix du cœur. Et si elle est en Christ, je veux du Christ. Tellement elle était tourmentée, agitée. Oui, mais madame, savez-vous ce que la Bible dit de l'astrologie ? Et des sciences occultes, d'une manière générale, nous avons passé en revue quelques textes. Et là, alors, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu une astrologue se repentir de ses péchés, se repentir d'avoir exercé l'astrologie. Je l'ai entendu dire, Seigneur, je veux que tu m'aides à arrêter cette émission à la télévision canadienne. Il faut savoir qu'au Canada, surtout au Québec, l'Esprit de Dieu souffle de manière puissante sur la belle province. Nous avons prié, nous nous sommes séparés. Mais au moment de nous séparer, je m'étais dit, mais que va-t-il rester de cette décision chez cette personne? Parce que le diable ne laisse pas, comme ça, partir facilement ceux qui l'ont servi. Quand, environ 3 mois plus tard, me trouvant cette fois en France, à l'aéroport parisien qui dessert l'Amérique, l'aéroport Charles de Gaulle, Roissy-Charles de Gaulle, pour y attendre un ami américain, on m'a tapé sur l'épaule. Je me suis retourné. C'était une dame. « Mais vous êtes Alain Joaquier ?»« Oui, madame. » « Est-ce que vous me reconnaissez ?»« Non, madame. Je vois beaucoup trop de monde au cours de mes tournées dans le monde francophone pour me souvenir de tous les visages venus aux conférences. Alors, qui êtes-vous ? Eh bien, je suis cet astrologue qui s'était avancé lors de votre dernière réunion à Montréal. Vous vous souvenez, avec mon mari ? Nous avions prié ensemble. Ah oui, je me souviens de cela. Et comment allez-vous ? Je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à cette rencontre. Mais monsieur Joaquier, tout va très bien. Tout va très bien. Avec mon épouse, nous avons donc mis un terme à cette émission. Nous marchons avec le Seigneur et à l'heure qu'il est, nous appartenons à telle église évangélique de la ville de Montréal. Mais quelle joie ! Quelle joie que d'entendre cette femme anciennement astrologue me tenir un tel propos. Et savez-vous que depuis, je pense de temps à autre à Madame Soleil, priant pour elle. Ah, si cette Madame Soleil pouvait se convertir, elle aurait un certain impact sur la France. On peut être angoissé même quand on est astrologue. Quand on pense à ces millions de Français qui consultent les astrologues, savez-vous qu'en France, pendant longtemps, le nombre des astrologues a dépassé celui des médecins, des pasteurs et des prêtres réunis. Vous le saviez cela ? Heureusement que ça n'est plus le cas. Mais pendant un temps, ce fut le cas. Les astrologues étaient plus nombreux en France. Jusqu'en 1962, ils étaient plus nombreux que les médecins, les prêtres et les pasteurs réunis. 15 millions de Français consultent les astrologues. On pense que les astres nous portent un message. Quel désastre ! Et on peut être angoissé quand on est simple citoyen suisse, et puis simple citoyen français. La Bible dit que l'angoisse est un signe des temps. Jésus en a parlé comme d'un signe des temps. En Luc 21-25, Jésus a dit ce qui suit à propos de ces temps qui sont les derniers. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront plus que faire. Et nous pensons être entrés dans ces temps-là. Alors essayons de comprendre pourquoi cette grande angoisse, pourquoi cette peur aujourd'hui qui envahit la terre. C'est quoi l'angoisse ? D'où vient l'angoisse ? Pour le comprendre, il faut en venir au grec. Vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le mot français « angoissé » vient du grec « merimno », lequel mot grec est fait de 2 termes. Et vous allez voir que la lumière va se faire. 2 termes. D'un premier terme, merizo, qui en grec signifie diviser. Et d'un second terme, lequel, toujours en grec, signifie esprit. Il y a plusieurs mots en grec pour parler de l'esprit. Et nous y voilà. L'angoisse résulte d'une division intérieure. Chez l'individu, l'angoisse résulte d'une division intérieure. Et l'esprit est divisé, puisque c'est là l'étymologie du terme angoissé, esprit divisé. L'esprit est divisé toutes les fois où il y a doute. Mais mes amis, nous vivons plus que jamais le siècle du doute. Nous pataugeons littéralement dans les marais du doute et de l'incertitude. Plus rien n'est sûr aujourd'hui. Même ce passé que nous avons vécu et qui nous hante, il nous angoisse. Ce présent, difficile à vivre, et pour lequel rien n'est sûr, et ne parlons pas de l'avenir. Nous vivons plus que jamais le siècle du doute et de l'incertitude. Quelqu'un disait même il y a peu de temps, le plus sûr aujourd'hui, eh bien, c'est de n'être sûr de rien. Oui, c'est le plus sûr, ça, de n'être sûr de rien. Mais l'esprit est divisé donc toutes les fois où il y a doute. Et puis, le doute, c'est quoi? Le doute est cet état d'esprit qui hésite entre l'affirmative et la négative. Le doute est encore cet état d'esprit qui hésite entre l'ignorance et la certitude. Nous disions hier que la plupart du temps aujourd'hui, l'homme ne sait pas d'où il vient. Incertitude à cet égard. Doute. Nous doutons de tout. Et notre angoisse résulte de conflits intérieurs, de tiraillements intérieurs, dû au doute. Le doute aujourd'hui opère des ravages considérables sur la planète. Tout est remis en question. Absolument tout. L'existence de Dieu, l'existence de l'homme elle-même est remise en question. Parce que quand Dieu est évacué, c'est du même coup l'homme avec Dieu qu'il est aussi. Et puis il y a surtout conflit en nous entre le bien, le mal, le bon, le mauvais, le vrai, le faux, le beau, le laid, le juste, l'injuste. Nous ne savons pas, nous ne savons plus ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est beau. Nous ne savons plus. Pourquoi appelle-t-on ici bien ce qui est appelé mal là-bas? Et pourquoi appelle-t-on mal ici, ce qui est appelé bien là-bas? Nous sommes complètement déboussolés au niveau d'une civilisation, d'une génération qui a tout remis en question. Et ce fléau, ce phénomène peut nous conduire jusqu'à la blessure intérieure. C'est-à-dire ces doutes, ces tiraillements, ces incertitudes peuvent nous conduire jusqu'à ce qu'il est convenu d'appeler la dépression, la blessure psychologique. Et vous savez certainement combien la dépression est un mal de notre temps. Mais ce qui est grave, voyez-vous, c'est quand nous sommes atteints jusque dans notre conscience par le doute. Et nous le sommes aujourd'hui. Nous sommes atteints jusque dans nos consciences par ce terrible mal qu'est le doute. Pourtant, l'homme voudrait se sortir de ses doutes. L'homme lutte contre ses doutes. L'homme a faim de certitude. Il voudrait des assurances solides. Mais le malheur veut que la plupart du temps, il les cherche, ses certitudes, ses assurances, il les cherche ailleurs qu'en Dieu, ailleurs que dans la parole de Dieu, ailleurs qu'en Christ. Et c'est tout le tragique de l'affaire. C'est un drame, un véritable drame. À propos de dépression, voulez-vous des chiffres? Là encore, le chiffre que j'ai me vient de l'OMS, de l'Organisation Mondiale de la Santé, à Genève, qui affirmait voilà un an, qu'à l'heure qu'il est, 100 millions d'hommes et de femmes sont en hôpitaux psychiatriques pour dépression. 100 millions, ceci fait combien de fois votre Suisse ? En tout cas, c'est presque deux fois la France à l'hôpital pour dépression. Mais l'OMS de dire que ce chiffre doit se situer en dessous de la réalité, parce que beaucoup vivent leur déprime, leur dépression, sans le dire, et que le chiffre authentique des dépressifs dans le monde, selon toujours l'OMS, devrait tourner autour des 300 millions. 300 millions de dépressifs au monde qui auraient besoin de la paix du Christ. Et la plupart du temps, savez-vous que ce sentiment de culpabilité qui est éprouvé par la grande majorité de la population du globe a ses racines dans le doute. Dans le doute. A-t-on bien vécu notre vie ? Se posent tant et plus d'hommes et de femmes arrivés au crépuscule de leur existence. Sommes-nous en train de bien vivre notre vie ? On ne vit qu'une seule fois. Alors nous sommes torturés jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Et comment allons-nous vivre nos lendemains ? À partir de ce présent fait de doutes, de difficultés, de luttes, de combats. Et le doute s'est insinué, il s'est insinué jusque dans la famille où les conjoints n'ont plus confiance l'un dans l'autre. Et pauvre mariage que celui qui se fonde sur le doute mutuel. C'est plus courant qu'on le pense. Il y a peut-être ici quelqu'un qui vit le doute au niveau de son conjoint. Le doute s'est insinué entre parents et enfants. Les divisants, le doute divise. Il déchire. Il brise. Nous n'avons pas été faits pour vivre de doute. Si nous vivons de doute, c'est parce que nous sommes sur une voie qui n'est pas celle de Dieu. Et puis le doute s'est insinué jusqu'entre collègues de travail, au plan professionnel. Il s'est insinué entre patron et employé. Entre employé et patron, le doute est là. Partout, partout, partout. Mais le doute est précisément ce qui s'oppose à la foi. Et il y a doute toutes les fois où la foi est absente. Quand il y a la foi, il y a certitude. Quand il n'y a pas la foi, il y a doute. Et Jésus, dans l'évangile, de dire... Ah, si vous aviez la foi, et si vous ne doutiez point. Ce soir, vous pourriez passer du doute à la foi. Et puis, nous devons aussi à un médecin suisse, le docteur Meder, que je ne connais pas, je devrais peut-être prononcer Medre, hein, mais je suis français, voyez-vous. Le docteur Meder, un psychologue, a dit ce qui suit, l'angoisse, c'est une maladie de la conscience. En d'autres termes, l'angoisse, c'est l'homme malade dans sa conscience. C'est parce que nous sommes malades au niveau de nos consciences que nous n'avons pas la paix du cœur. Et la Bible l'avait dit bien avant le docteur Meder. Hein. Désolé, mes amis suisses. Le docteur Meder est suisse. Ce soir, tout est à votre honneur. Mais la Bible... Avant même, le docteur Meder avait dit ce qui suit. Trouble, et angoisse sur quiconque fait le mal. Romains 2, 9. Affirmant du même coup que le péché est source d'angoisse. Oui, le péché est source d'angoisse. Le péché est le trouble fait. Et l'homme pense, oublie plutôt souvent qu'il a une conscience. Quelqu'un disait à propos de la conscience, elle n'empêche jamais de commettre le péché. Jamais. Elle empêche seulement d'en jouir en paix. Comprenez ? La conscience n'empêche jamais de commettre le péché. Elle empêche seulement d'en jouir en paix. Et c'est parce que nous avons commis le péché que nous ne connaissons pas la paix du cœur, que nous sommes agités par toutes sortes de troubles, d'inquiétudes. Le péché, c'est le trouble fait. Il est source d'angoisse. Trouble et angoisse sur ceux qui pêchent, dit la Bible. Et la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et la Bible nous fait savoir que Dieu abhorre, littéralement, il abhorre le péché, c'est-à-dire qu'il le hait. Mais voyez-vous, il aime le pécheur. Il aime le pécheur. Et qui pourrait guérir un pécheur de ce mal terrible qu'est le péché ? Qui donc ? Le psychologue, nous venons de le voir. L'astrologue, nous venons aussi de le voir. Alors qui ? Qui ? Et c'est là, à l'heure où intervient la bonne nouvelle de l'Évangile. La Bible dit, le sang du Christ guérit nos consciences, malades de leurs péchés. Hein. Le sang du Christ guérit nos consciences des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant et vrai. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Au calvaire, le Christ, en mourant sur la croix, s'est employé à réduire à néant nos péchés. Il s'est employé à briser les forces du mal et de la corruption qui nous asservissent et qui nous tentent constamment. Le Christ sur la croix a brisé la puissance du péché. Il a vaincu le péché. Il a anéanti le péché. Mais Choquier, c'est quoi le péché ? Voilà ce qu'on me dit très couramment. Expliquez-vous. Oh, on essaie simplement de fuir la vérité en face, de la fuir. Mais le péché, on sait ce que c'est quand même. Et Jésus a dit ce qui suit en Marc 7, 21. C'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Qui ici pourrait dire « mauvaises pensées à Tavannes et dans la vallée, on ne sait pas ce que c'est ?» Ah, ne venez pas me dire ceci, hein, au terme de la réunion. Et puis, Jésus poursuit, le péché, hein, ce qui sort de l'homme, c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les adultères. Il n'y a pas d'adultère dans la vallée ici. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. La corruption sexuelle, dit encore Jésus, les meurtres, les vols, l'amour de l'argent. Alain Choquier, nous haïssons le franc suisse dans la vallée. Et puis le Christ de poursuivre, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, voilà le péché. Et si vous veniez vers moi tout à l'heure pour me dire au terme de la réunion, Alain Choquier, le péché, dans la vallée, on ne sait pas ce que c'est, je vous promets de venir habiter la vallée. Mais comme je sais que le péché est partout, qu'il est universel, tous sont péchés, alors je sais que le péché est aussi dans cette vallée. Il est partout. Mais quelle joie de savoir que Christ est mort pour nos péchés. La Bible le dit, c'est le message de l'Évangile. Quelle joie de savoir que le sang du Christ nous guérit dans nos péchés. Et quand au niveau de nos consciences, nous rendant des consciences pur, net, clair, limpide, comme le cristal. Vous avez peut-être du cristal chez vous. C'est beau le cristal, c'est pur, c'est net, c'est clair, c'est limpide. Le Christ est capable ce soir de vous rendre des consciences pures, nettes, claires, limpides, comme le cristal. Et c'est alors que la fête commence. Oui, parce que la fête du salut commence avec le pardon des péchés. Le pardon des péchés qui nous met le cœur en fête. Oh, une soirée réservée sur le thème « Une génération en mal de joie ». Et nous dirons à cette occasion que le salut du Christ est une fête. Une fête! C'est la fête de la vie. Mais déjà ce soir, nous pouvons dire que cette fête commence avec le pardon des péchés. Et quelle joie ensuite de se sentir propre au-dedans, hein, dans son cœur. C'est déjà bon de se sentir propre au-dehors. Quand on a pris une bonne douche, hein, un bon bain, mais qu'il est bon aussi de se sentir propre dedans, et qu'il est bon aussi d'avoir son péché pardonné, réglé. David a dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, heureux celui à qui le péché est pardonné. » Est-ce que vous chantez le pardon de vos péchés comme ce roi David ? Est-ce que pour vous la fête de la vie a commencé avec le pardon des péchés, la fête du salut ? Ce soir, vous pourriez venir au Christ et vider votre cœur. J'allais dire, ce soir, vous êtes invité à venir au Christ pour retourner le sac, hein, pour le vider, ce sac de votre cœur. Le Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il est votre paix, mon ami. La Bible dit du Christ qu'il est le prince de la paix. Cette paix-là se saisit en Christ. Il suffit de venir au Christ dans la repentance, parce que nous sommes des pécheurs, et dans la confiance, parce qu'il nous aime, pour prendre sa main, et commencer une nouvelle vie avec lui. Oh mon ami, je vous appelle à venir au Christ. Je vous demande de vous tourner dans votre cœur vers lui, et puis de recevoir de lui le pardon de vos péchés et la paix du cœur. Votre paix a un nom, elle s'appelle Christ, et Christ vous la donne gratuitement. Il a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Ce soir, vous êtes chargé dans votre cœur, dans votre conscience. Vous n'en pouvez plus de porter ce que vous portez. Alors je vous pose la question, mais pourquoi continuer de porter ce que vous portez quand Christ a déjà porté tout cela pour vous, à votre place ? Ah, quand je pense que le Christ apporter mes péchés. Et voilà comment il les a portés. Non seulement les miens, mais les vôtres. Cette main qui tient ce livre, c'est vous, c'est moi. Avec ce poids, hein, de leurs péchés sur leur conscience. Le Christ est venu pour nous délivrer de nos péchés, de nos angoisses. Il est venu pour nous rendre libres, pour nous donner sa paix. Et savez-vous ce qu'il a fait ? Aux heures sombres du calvaire, il s'est chargé de nos péchés pour nous en délivrer. De sorte que notre péché sur lui, la fête commence. Et la Bible dit que le Christ a anéanti notre péché par son sacrifice. Il a porté nos fardeaux. Il nous est venu en aide. Ce soir, nous pourrions lui faire confiance. Et je vous invite à lui faire confiance. Je vous invite à venir à lui dans votre cœur, là, assis que vous êtes. Je vais dire une prière, vous allez la reprendre après moi. Silencieusement dans vous. Vous la direz de tout votre cœur et vous la direz comme si elle était la vôtre. Et puis, nous entendrons à nouveau ici nos amis qui nous jouent de la musique avec tant de dons. Nous les entendrons à nouveau. Et je reviendrai pour le mot de la fin, quelques instants. Alors dites simplement la prière que vous allez entendre. Nous nous courbons devant Christ. Jeunes, moins jeunes, qui que vous soyez dans ce lieu ce soir, sachez que Dieu vous aime et qu'il ne veut plus que vous continuiez une existence sans lui, faite d'angoisse, de tourments. Il voudrait que vous soyez en paix. Il voudrait que vous viviez en paix. Il a donné Christ dans ce sens. Alors dans votre cœur, dites-lui cette prière simple, courte. Dites ces quelques mots. Seigneur, dites-lui, Seigneur, tu vois que je ne suis pas en paix. En repos dans mon âme, dans ma conscience. Seigneur, tu vois mon passé. Seigneur, tu le connais, ce passé. Et tu vois aussi mon présent, cette vie de tous les jours dans laquelle je me débats. Et ces problèmes que je traîne, cette angoisse qui me torture, ces fardeaux, Seigneur, qui me sont si lourds. Aie pitié. Seigneur, je viens à toi tel que je suis et je vide mon cœur, je vide mon sac, je le retourne. Je dépose tout à tes pieds, dites-lui. Je dépose tout à tes pieds. Seigneur, accueille-moi et sauve-moi. Accorde-moi ta paix, cette paix céleste que le monde ne peut pas donner, mais que tu donnes. Seigneur, je viens à toi, pardonne mes péchés, et qu'à partir de ce soir pour moi, la fête du salut en Christ puisse commencer. Oui, Seigneur, je viens à toi, entends-moi. Amen.